Salut Christophe, bienvenue pour ton nouveau podcast Super Physique.
Merci beaucoup et bienvenue à tous les auditeurs.
Donc comme d'habitude, des questions très intéressantes. Donc comme à chaque podcast que l'on fait ensemble, je suis toujours surpris des questions qui nous sont posées.
Bon, mais écoute, tant mieux.
Comme ça fait longtemps qu'on t'a pas trop vu sur Super Physique, on va te demander comment tu vas. Quelles sont tes news?
Écoute, je vais bien, j'étais pas mal occupé avec notamment beaucoup de formations sur le CTS, un petit peu partout.
Tu es en Suisse, non? En Belgique, non? Je sais pas, je t'ai vu te déplacer, non?
Ouais, voilà, je suis parti en Suisse, je suis parti en Belgique, je suis parti à Paris. Enfin voilà, j'ai pas mal bougé ces derniers temps. Je suis en train de travailler sur mon prochain bouquin qui sortira en fin de l'année, Total Kick Training. Et voilà, donc du coup j'ai moins de temps et du coup on me voit moins sur Super Physique, mais comme vous le savez, je suis un fan de la première heure, donc voilà.
Donc justement tu parles de kick training, donc qu'est-ce que c'est exactement?
Bah en fait Total Kick Training c'est tout simplement ma vision du travail des coups de pied après 20 ans que j'ai passé à en donner dans le karaté. Voilà, donc ma vision aujourd'hui, en fonction de ce que je connais justement du travail corporel, en fonction des douleurs corporelles que beaucoup de pratiquants subissent, ont notamment au niveau des hanches. Et donc le livre propose en fait différentes approches pour pouvoir permettre à n'importe qui soit d'apprendre des coups de pied de la bonne manière, soit de reconstruire en fait les techniques de jambes tout en limitant les blessures corporelles et les douleurs corporelles. Voilà, c'est ça Total Kick Training.
Donc là, ce sera un DVD, c'est ça?
Alors, il y aura un double DVD, donc deux DVD dans un coffret, plus un livre d'environ 200 pages sur le sujet. Voilà, donc avec toujours pareil, une partie théorique pour comprendre ce qui se passe. Et puis une partie pratique pour expliquer avec notamment des circuits basiques, moyens, avancés en fonction des différentes techniques de jambes qu'on travaille. Voilà.
Donc ça veut dire qu'on va faire des coups de pied à la Jean Claude Van Damme en gros.
Ça veut dire qu'on pourra faire des coups de pied à la Jean Claude Van Damme, je sais pas, mais en tout cas on pourra faire de meilleurs coups de pied, plus rapides, plus efficaces, plus puissants. Plus technique, sans se flinguer. Voilà, c'est ça l'idée.
Donc, par rapport à Kick Training, il y avait j'ai pas le pseudo, mais sur le forum, un pratiquant de taekwondo qui a du mal à concilier justement ses entraînements de muscu au niveau des jambes avec le taekwondo.
Ouais.
Je sais pas si t'as vu la question exactement.
Oui, je crois que c'était... Attends, je vais te dire
donc,
ça.
Donc, notamment, en fait, comment planifier ses séances de cuisses, comment s'organiser off-saison, pendant la saison. Et quand il fait les cuisses, en fait, il y a des courbatures, il se sent un peu plus raide.
Ouais, parce qu'en fait c'était Beranco qui faisait ça dans le forum, je crois.
Ouais, mais c'est une question en fait qui revient souvent. J'ai pas mal d'élèves qui faisaient du taekwondo et qui me disaient ça en fait.
Alors le gros souci en fait, c'est que tu peux pas le travail de jambes. Déjà, le travail des coups de pied, c'est un travail qui se fait à grande vitesse et à une grande amplitude. Donc c'est un travail qui est générateur de fortes courbatures et notamment de courbatures au niveau de la jonction myotendineuse, c'est-à-dire la jonction entre le muscle et le tendon, ou entre le tendon et le périoste, c'est-à-dire l'accroche du tendon sur l'os. Donc, ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas appliquer les mêmes recettes qu'on pratique en prépa physique habituelle ou en muscu traditionnel lorsqu'on pratique un sport de combat ou des arts martiaux, par exemple. Donc Beranco, sa question c'était aussi liée au fait qu'il pratiquait, je crois, la méthode de mon lit de musculation athlétique, et du coup il savait pas trop comment utiliser le travail des jambes qu'il y a dans le livre et de le combiner avec son travail de technique de jambes. Donc l'idée en fait c'est là de créer un split, c'est-à-dire de travailler par exemple musculation athlétique ou d'autres formes de musculation pour le haut du corps un jour et faire des séances beaucoup plus spécifiques pour les techniques de jambes, accompagnées d'exercices spécifiques de renforcement musculaire, notamment de la plio, mais aussi un travail équilibré, par exemple de squat et de squat avant et de soulever de terre, par exemple, pour maintenir un certain équilibre au niveau la chaîne antérieure et de la chaîne postérieure. Donc ça, je l'aborderai beaucoup dans le bouquin justement, et dans le DVD, ben, je proposerai différents circuits justement de renforcement musculaire en fonction du niveau des gens. Mais il est certain qu'on peut pas s'entraîner de la même manière lorsqu'on veut faire du powerlifting et en même temps faire des coups de pied comme Jean-Claude Van Damme, quoi. Il y a une petite problématique qui naît là, donc.
Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent, c'est de confondre, en fait, quand on en parle de plus en plus, je vois dans divers articles, en fait, de confondre le bodybuilding, en fait, ou le powerlifting, donc construire du muscle, prendre de la force avec la musculation sportive, et qui n'a rien à voir, en fait. Donc le bodybuilding qui consiste en gros à travailler le muscle et la préparation physique qui consiste à travailler plutôt le mouvement.
Absolument, complètement.
Et donc, en fait, c'est vraiment que beaucoup ne comprennent pas la différence ou n'en ont pas connaissance. Mm-hmm. Et donc, ça fait beaucoup de problématiques comme là, les jambes lourdes perdent la récup et compagnie. Donc, je pense que Mister Bianco fait des séances de cuisses type bodybuilding.
Alors, peut-être pas, non, parce que je te dis, je pense qu'il utilise, de ce que j'avais lu dans le forum, il utilise musculation athlétique. Mais disons que le problème, c'est le volume, en fait, des séances de muscu qu'il fait parallèlement à sa pratique du taekwondo, par exemple, qui peut poser problème. Il peut également avoir des problèmes de déséquilibre musculaire qui sont liés justement à la pratique des coups de pied et qui entraînent une mauvaise utilisation des articulations en musculation classique. Donc tout ça fait que le corps récupère mal, le corps est stressé dans certaines directions au niveau des articulations et pas dans d'autres. Et du coup, ben, ça crée des tensions, des douleurs, des problématiques. Et les personnes ont du mal à récupérer. Donc, effectivement, c'est fréquent. Moi, j'avais souvent des problèmes quand je faisais beaucoup de karaté dans le passé. Puisque, ben, j'utilisais j'utilisais dans mes premières années des techniques que je lisais dans Muscle & Fitness et que je pratiquais en plus du travail de karaté. Et effectivement, j'avais très souvent des problèmes de hanches, des douleurs dans le dos, des douleurs dans les genoux, simplement parce que le volume de travail n'était pas bien distribué, les exercices que j'utilisais n'étaient pas bien choisis. Voilà. Mais tu as très bien résumé les choses, en fait, Rudy. Les gens confondent de plus en plus, en fait, le renforcement musculaire pour faire du muscle et le renforcement, en fait, du mouvement qui est pour l'amélioration de la gestuelle et la vitesse dans les sports, la puissance dans le sport, en fait. Et ce sont deux choses qui sont quand même différentes.
Puisque là, on parlait de récup, avant de revenir à ton actualité, donc Bianco, toujours, qui parle d'en savoir s'étirer. Donc du travail de tomassage suivi d'étirement n'est pas un travail de souplesse à froid.
Ouais.
Et donc en fait, il voulait savoir, donc t'as dû voir la question.
Ouais.
Donc en fait, il dit, il te donne de ne pas commencer le travail de souplesse à froid tant que tu as des nœuds, en fait.
Ouais.
Donc la question, c'est quand est-ce qu'on sent qu'on n'a plus de nœuds Donc la question me paraît bizarre.
Alors en fait, c'est plutôt quand est-ce qu'on
peut attaquer le travail de la souplesse à froid, en fait.
Voilà, exactement, dans la mesure où en fait les automassages ne sont plus douloureux. Parce que tous ceux qui pratiquent un peu les automassages, leur première plainte au tout début, c'est de dire waouh, ça fait mal, quoi. Ce qui est normal parce qu'il y a un certain nombre de tensions au niveau du muscle, à l'intérieur des tissus musculaires, et donc du coup, le temps que on agisse sur ces tensions-là, le temps qu'on agisse sur un certain nombre d'adhérences au niveau des tissus, eh bien, il faut du temps. Donc la question de Bianco, c'est est-ce que lorsque je n'ai plus mal, lorsque je fais mes automassages, c'est le signe que, par exemple, je peux attaquer des étirements à froid. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris sa question.
Ouais, il y en avait plusieurs, mais en gros, c'est la question.
Donc, ce qui est important, déjà, c'est de se rappeler que le corps, il s'adapte à tout, en fait. Le corps, c'est une machine adaptative. Parce que sa seule préoccupation, c'est de survivre au stress qu'on lui impose. Donc par rapport à ça, si on travaille toujours de la même manière en automassage, on va s'adapter en fait aux techniques d'automassage qu'on utilise. Et c'est pour ça que dans le CTS, j'utilise différentes formes d'automassage et différents outils d'automassage de manière à solliciter en fait le corps différemment et d'induire, un peu comme avec d'autres formes d'entraînement, une certaine demande d'adaptation permanente, en fait, des tissus. Donc ça, c'est la première des choses. Après, le travail à froid, c'est une forme d'entraînement pour progresser en souplesse passive. C'est-à-dire, le but, c'est généralement, on prend une position, on la tient de manière à déformer, en fait, les tissus et obtenir un gain au niveau du maintien passif des tissus. C'est assez clair pour tout le monde, d'après toi, Rudy, ce que je raconte là?
Je pense que c'est assez clair, mais si tu peux plus développer pour ceux qui...
Ouais. Donc, grosso modo, le but des étirements à froid, c'est un petit peu comme si vous preniez du plastique et vous allez tirer sur le plastique, sur les deux bouts. Alors, dans un premier temps, le plastique est compact. Et puis, plus vous allez tirer dessus, plus le plastique va se déformer. Et par la suite, il va garder en fait les traces de cette déformation. Donc, le but des étirements à froid, c'est un petit peu d'agir sur certaines structures musculaires afin de créer une déformation et donc du coup que le corps reste relativement allongé en position dans une position de repos. Voilà. Donc le souci en fait, c'est que ce travail à froid, il génère une souplesse passive qui va pas forcément nous aider dans la gestion sportive, etc. Et ça va poser éventuellement des problèmes de stabilité au niveau des articulations ou des choses comme ça. Donc moi éventuellement pour des gens vraiment qui veulent progresser en souplesse, je leur conseille d'utiliser les étirements à froid, notamment dans des périodes creuses de l'année, c'est-à-dire loin des compétitions. Et généralement voilà, lorsqu'on n'a pas d'objectif en fait majeur en termes de performance sportive. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses en fait, c'est que aujourd'hui pour quiconque, moi je ne recommande plus le travail à froid, même si j'en ai été un défenseur pendant un certain temps. Encore une fois, je préfère une pratique qui associe systématiquement les automassages, des étirements soit actifs pour progresser dans les mouvements sportifs, soit plutôt passifs pour la récup. Mais je privilégie plus du tout le travail à froid pour n'importe quel athlète avec lequel je bosse, ou même pour moi-même, quoi.
Parce que justement, t'es assez souple tout le temps, ou...
Alors certainement que, je peux tenir ce discours parce que je suis assez souple tout le temps, mais un excès de souplesse, c'est aussi problématique au niveau de la stabilité des articulations, et notamment au niveau de l'articulation de la hanche, des articulations de sacro-iliaque, c'est-à-dire au niveau du bassin. Et ça, éventuellement, ça peut poser des problèmes chez les gens qui sont relativement, qui sont très souples. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une perte de stabilité qui, encore une fois, peut entraîner des problèmes douloureux, des problèmes de conflits articulaires, des problèmes de stabilité articulaire et qui vont être embêtants, pas quand on a 20 ans, mais quand on commence à en avoir 40, 50, 60. Là, on se dit, merde, est-ce que j'ai bien fait de faire le grand écart, quoi.
Donc, voilà. Donc, quand est-ce que Béranco va s'étirer à froid?
Ben, moi, je lui suggère de pas le faire.
Voilà.
Voilà, c'est assez simple. Je pense que il a d'autres formes, surtout puisqu'il suit ce que je propose dans le CTS. Il y a d'autres formes de travail encore à explorer. Avant vraiment de vouloir utiliser ce type de travail à froid. Et dans Total Kick Training, je proposerai justement des alternatives pour progresser en souplesse justement sans engendrer de problématiques douloureuses ou sans engendrer de soucis au niveau des articulations de la hanche et du bassin.
Donc, il y avait une question qui m'intéressait pas mal, donc c'est toujours Béranco.
Ouais.
Quand tu t'automasses et que t'as plus de douleur en fait, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à s'automasser ou tu restes que sur les zones où il y a encore des nœuds?
Alors exactement, ce qui est intéressant, c'est que le but, c'est vraiment de passer en fait du temps sur les zones où il y a des nœuds et les zones où il y a finalement plus de tension, on n'a plus forcément besoin de les masser. On peut y revenir de temps à autre parce que si tu masses pas une zone, eh ben, au bout d'un moment, il y a à nouveau un certain nombre de tensions qui vont s'accumuler dedans. D'où, si tu veux, la nécessité, à mon sens, d'agir sur les zones à problème, les zones qu'on a déterminées comme des zones problématiques chez nous, celles qui sont tout le temps douloureuses, liées à l'entraînement, liées à nos postures. Donc, on travaille dessus tous les jours. Et par contre, On essaie de voir un petit peu, de travailler le corps dans sa globalité au niveau des massages. Par exemple, une fois par semaine ou deux fois par semaine. C'est ce que j'ai appelé la journée des tissus ou la semaine des tissus quand on est en semaine de récup dans le CTS. Voilà.
Bon, bah, je pense que ça répond à la question. J'espère que Béranco sera ravi.
Je peux pas être plus clair, hein, en tout cas.
Donc, pour continuer sur tes news, je crois que j'avais entendu parler que tu allais sortir quelque chose sur la préparation mentale.
Ouais, alors ça, c'est toujours d'actualité. Quand ça va sortir, je ne sais pas encore. Parce que le livre sur la préparation mentale, il soulève beaucoup de questions, etc., afin de faire quelque chose de synthétique et d'utilisable par tout le monde. Voilà. Donc, ça prend du temps de créer quelque chose, de vulgariser en fait des notions de psychologie, des notions qui sont liées à des choses abstraites comme le cerveau. Voilà, j'y travaille, mais j'ai d'autres projets qui sont plus faciles pour moi à écrire, à développer pour le moment. Donc, ça viendra, mais un peu plus tard.
Et t'as d'autres projets aussi
Ben, Total Kick Training viendra le jour, là, viendra, voilà, d'ici la fin de l'année, entre fin novembre et courant décembre. Ça, c'est pour la sortie. Ensuite, il y aura Primal Running, qui abordera un peu ma vision de la course à pied, que ça soit du sprint en passant par la course d'endurance, le trail ou le parcours. Et bien entendu, ben, toutes les problématiques qui sont associées à la course. Donc ça sera pareil, un double DVD avec en vidéo toutes les choses pratiques, on va dire, les exos pratiques, l'exécution technique des mouvements, des circuits, etc. Et dans le livre, plus de la théorie pour bien comprendre pourquoi on fait tout ça, comment on planifie tout ça, etc. Voilà.
Donc pour en revenir à toi, Christophe, ces questions, il y a Elsa qui lance une sorte de pic.
Ouais.
Alors d'un point de vue sportif, as-tu encore des objectifs précis, des secteurs où tu souhaites encore progresser, ou alors t'es dans une logique de maintien?
D'accord. Bah aujourd'hui en fait, je suis vraiment dans cette. Il y a deux phases, deux objectifs majeurs pour moi. Le premier, c'est affiner en fait le CTS, le rendre encore plus accessible au plus grand nombre, bien synthétiser les choses qui fonctionnent bien orienter en fait la planification des phases du CTS, etc. Donc ça, c'est très très important. J'y passe beaucoup de temps, j'essaye beaucoup de choses à titre personnel à ce sujet. Après, à titre perso, je continue, tu vois, beaucoup bosser sur des mouvements athlétiques en force, au poids de corps, comme les tractions à un bras, les tractions en drapeau, beaucoup de choses de ce style. Dans les sports de combat, je maintiens ce que je sais faire. Je fais un petit peu de...
En fait, tu fais plus des mouvements techniques, en fait, en musculation, en fait.
Ouais, je fais beaucoup de techniques, mais en même temps, c'est aussi de la force dans le sens que, tu vois, des tractions à un bras, c'est pas que de la technique, hein. Si t'as pas de force, tu montes pas, hein.
Ouais, non, mais je veux dire, en fait, c'est pas des... Genre, par exemple, on parle de sport de combat.
Oui.
Est-ce que tu referais ce que tu faisais avant ou tu peux encore progresser?
Tu veux dire, est-ce que je ferais, au niveau technique, ce que je faisais auparavant?
Ouais.
Ah oui, ben c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, tu vois, c'est que avec une bonne planification de l'entraînement, en travaillant sur cette logique de mouvement plutôt que de muscles, je m'aperçois en fait que je perds très très peu de mes capacités athlétiques et surtout de mes capacités techniques au niveau du karaté. Et ça m'arrive très fréquemment, d'être invité pour des démonstrations de devoir refaire des trucs de karaté artistique, par exemple, alors que ça fait 4 mois que j'en ai pas fait. Et avec la condition physique que j'ai maintenue, etc., les choses, elles passent quasiment comme si j'étais la veille d'un championnat du monde.
Ouais, donc mais en fait, t'as perdu aucune forme, quoi. En fait, t'es toujours. Est-ce que tu peux progresser dans cette technique ou...
Alors aujourd'hui, si tu veux, je cherche pas à progresser au niveau de ce que je faisais par le passé, pour la bonne et simple raison que c'est, je considère ça comme beaucoup trop traumatisant pour le corps. J'ai eu la chance de passer au travers de problématiques, si tu veux, douloureuses. On va dire qu'ils m'ont assez épargné, à part ma grosse déchirure au niveau du mollet droit. J'ai une désinsertion totale, je crois qu'on en avait déjà parlé. Donc, mis à part ça, j'ai pas eu de gros problèmes, si ce n'est des douleurs au niveau du dos, au niveau des hanches, etc. Mais dans ma discipline, il y a tous les jeunes, ils ont eu des ruptures du tendon d'Achille, des ruptures des croisés, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai pas envie, si tu veux, de continuer à faire des choses qui me détruisent le corps, quoi. Voilà. Donc de temps en temps, quand je suis en très bonne forme et quand j'ai l'envie, ben voilà, je m'amuse avec ce que j'ai fait par le passé. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, tu vois, c'est de faire du MMA avec des copains. C'est voilà, c'est de travailler un petit peu plus l'aspect combatif des sports de combat. Voilà, c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse beaucoup, en plus de tout ce que je fais au niveau travail force, tu vois, dans la muscu. Et puis, l'été prochain, je courrai aussi un certain nombre de trails.
Tu te mets sur les trails?
Ouais, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et comme j'ai grandi quand j'étais petit dans la campagne, en fait, ben j'avais l'habitude de partir... En fait, comme tout gosse, hein, partir dans la forêt, courir et faire refaire le monde et me faire plein d'aventures dans les bois. Et voilà, aujourd'hui, ben le trail offre ça un petit peu pour les adultes, donc je trouve ça intéressant. Et donc voilà, je me suis fixé quelques objectifs pour l'été prochain sur des courses qui sont accessibles à mon niveau, quoi. Voilà.
Justement, là, pour revenir sur un point de vue sportif, donc, moi, j'avais une question, donc, est-ce que tu penses que c'est ton âge, en fait, ou l'évolution de tes connaissances qui te pousse justement à être plus axé, parce que tu dis que tu veux plus faire, en fait, de trucs traumatisants, en fait.
Ouais.
Mais pour un jeune, donc, tu vois, par exemple, pour moi, j'ai toujours l'ego de la performance, tu vois, d'essayer de battre hardcore et compagnie.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est l'âge qui te pousse à ne plus faire des choses traumatisantes? Combiné à plus de connaissances, et est-ce que si t'avais été jeune, t'aurais aussi, avec ces connaissances-là, t'aurais pensé à ne pas faire des choses traumatisantes?
Ben, si je, tu sais, c'est toujours les discussions sympas que tu peux avoir avec certaines personnes qui te disent si tu pouvais revenir en arrière avec tout ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu referais quelque chose?
C'est vrai.
Et voilà, je répondrai, je referai la même chose, mais différemment, bien entendu. Ce que je sais aujourd'hui au niveau des étirements, au niveau des douleurs dans les hanches, etc., je ne serais pas entraîné de la même manière il y a 15 ans en arrière, par exemple. Après, Rudy, on n'a pas le même âge, j'ai quasiment... t'as quel âge, toi?
24.
24 ans, je vais bientôt en avoir 37, donc j'ai 13 ans de plus que toi. J'ai un parcours sportif déjà bien rempli et j'ai eu mon lot en fait de... Enfin, j'ai bien pu assouvir mes problèmes d'ego. Donc, je comprends qu'il y a encore des gens qui aient besoin en fait de passer par la performance, le dépassement, et moi aussi, hein, j'ai encore envie de me dépasser, hein, attention.
Non, mais là, parce que tu parlais de choses traumatisantes, en fait, c'est vrai que quand tu sais pas, ou toi que t'es jeune, en fait, tu le tentes, quoi, tu...
Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, si tu veux, avec le recul, voilà, tu ne feras pas faire des choses que simplement par ego ou un truc comme ça, quoi, voilà.
Non, ouais, c'était...
Ça répond à ta question.
Si, ça répond.
Si tu veux, à 37 ans, j'ai envie de pouvoir faire du sport pendant les 37 prochaines années et pas regarder le sport sur Superphysique ou mes vieilles vidéos en me disant « Ah putain, c'était super ce que je faisais auparavant, quoi. » Voilà. Ça, c'est pas mon discours, et c'est pas l'idée et l'image que j'essaie de véhiculer dans mes livres ou dans le CPF. C'est vraiment, voilà, le sport, c'est une pratique de découverte de soi, mais une fois qu'on s'est découvert, une fois qu'on a un petit peu compris un certain nombre de choses, voilà, il faut continuer à se fixer des objectifs, à se fixer des choses sur lesquelles on doit progresser. Et j'ai dernièrement discuté avec une personne qui disait que j'étais très critique à l'égard du CrossFit, et contrairement à ce que me disait cette personne, je lui faisais remarquer que l'idéologie du CrossFit à la base, qui était de préparer les gens d'une manière globale et en même temps de leur faire travailler différents aspects en fait de la préparation physique, différentes qualités de mouvement, moi j'ai toujours trouvé ça super quoi. Et aujourd'hui, si tu veux, quand on voit beaucoup de choses qui gravitent autour du CrossFit, parce que c'est très à la mode, je trouve très très intelligent en fait cette manière de concevoir le travail corporel. Après, c'est est-ce qu'aujourd'hui je pense que le CrossFit devrait amener à la compétition? Voilà, ça c'est un autre débat. Voilà, aujourd'hui les gens se préparent pour faire des compétitions de CrossFit, alors qu'à la base le CrossFit c'était vraiment une méthode de préparation en fait physique, généraliste, global, pour tous.
Maintenant c'est devenu un sport quoi.
Maintenant c'est devenu un sport, et c'est devenu un sport élitiste. Je crois qu'il y a Mathieu R, ça me permet d'embrayer là-dessus. Il y a Mathieu R qui me posait une question sur le second du CrossFit. Donc il me met un lien vidéo, il me met les trainings que les mecs font en une seule journée, c'est-à-dire ils s'entraînent 7 fois dans la journée.
Ah ouais, on a vu ça, les mecs s'entraînent toute la journée.
Voilà, et ben donc ça, Mathieu, je te réponds tout de suite, ça c'est humainement pas possible. C'est-à-dire c'est humainement pas possible sans en étant naturel quoi.
On est surpris que les mecs en fait soient si bons partout. Non. Et puis que les mecs s'entraînent mais toute la journée quoi.
C'est pas possible, si tu veux. Moi, j'ai été sportif de haut niveau, j'ai côtoyé beaucoup de sportifs de haut niveau, je me suis entraîné avec des coachs très, très intelligents. Donc, qu'on s'entraîne en vie quotidienne, pas de souci. Si les trainings sont intenses, assez courts, que la nutrition et la récup est optimale, c'est-à-dire avoir la possibilité de dormir, faire des siestes, ne pas avoir besoin de travailler. Parce que travailler, ça pompe de l'influx nerveux, etc. Pas avoir à se soucier de problèmes de fric, etc. À partir de 3 trainings par jour, moi je considère que c'est la casse assurée, à court, moyen ou long terme. Mais alors là, 7 fois dans la journée, ces mecs ils doivent pas avoir les mêmes capacités que la majorité d'entre nous. Ou alors ils ont des aliments et des compléments qui viennent de Mars ou ils font quoi, tu vois. Mais
c'est vrai que ça nous fait vachement surpris quand les mecs parlaient de leur entraînement, on les voyait, mais tu sais, même si c'est pas long en fait, par exemple leur séance de, on avait parlé avec El Sabre à un moment, ouais. Puis lequel c'était qui faisait sa séance genre dans la journée son ses 5 triplés au squat avant en ouais. 20 minutes quoi.
Ouais.
Je sais pas, mais 20 minutes c'est pratiquement mon temps d'échauffement, tu vois, avant une séance. Ouais. Le mec il se chauffe 7 fois dans la journée. Mais en fait, le mec, il s'arrête jamais.
Ouais, mais si tu veux, c'est... Alors, là, il y a plusieurs questions qui se posent suite à cette question de Mathieu et en même temps à ce que j'ai vu en vidéo. Donc, déjà, il faudrait savoir combien de fois ils font ça par semaine. C'est-à-dire, est-ce que ils font ça une fois par semaine ou tous les 10 jours, par exemple, pour reproduire un petit peu ce qui se passe durant les épreuves de CrossFit, où c'est un petit peu de multi-épreuves plusieurs fois dans la journée. Donc ça, à la rigueur, c'est possible. C'est possible parce que c'est le cas, par exemple, des décathloniens. Les décathloniens, quand ils font un décathlon, ils enchaînent les 10 épreuves en 2 jours.
Ouais, donc, mais ça veut dire... Ça dure 2 jours, c'est pas tous les jours.
Ouais, donc ça veut dire qu'ils ont 5 épreuves dans la journée, basées sur de l'explosivité de la technique et du cardio, donc ça se rapproche un peu de ce qu'on voit en vidéo, et en même temps, voilà, c'est sur 2 jours. Mais un décathlonien, après un décathlon, il met une semaine, voire 10 jours pour récupérer. Hein. Il reprend pas tout le lundi d'après le training avec cette densité et ce volume de travail, quoi. D'ailleurs, ils s'entraînent pas 7 fois par jour, les décathloniens.
Non, mais c'est...
Le Pôle France de décathlon est à Montpellier. Je me suis entraîné pendant de nombreuses années avec eux au Stade Philippides. Donc, je connais bien le problème, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça nous avait surpris, là, que les mecs s'entraînent autant. Mm. Puis, ils arrivent en méga fort.
C'est ça qui est un problème. Mais quand tu le vois dans la vidéo... Enfin, quand tu t'entraînes beaucoup, Rudy, au bout d'un moment, il y a un catabolisme qui est normal. Donc, au bout d'un moment, tu fais de la flotte, quoi. C'est-à-dire que ton corps, il fait de la rétention d'eau pour se protéger. Souvent, parce qu'il y a une réaction œdémateuse un peu globalisée, la lymphe circule mal. Et ces mecs-là, ils sont secs, comme des arbalètes.
Ah, ils sont archi secs.
Ils sont volumineux. Ils sont voilà. Ils terminent leur série comme si de rien n'était. Tu vois, on dirait presque qu'il aurait pu continuer à aligner 4 reps de plus, quoi. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont pas très claires dans ces vidéos-là. Ou alors c'est un montage, on nous fait croire qu'ils font ça dans la journée, quoi. Voilà.
Bah, c'est vrai, parce qu'en fait Mathieu s'est abonné justement au CrossFit Journal.
Ouais.
Et donc en fait, il tire maintenant les articles de là-bas et ça a l'air courant que les mecs s'entraînent autant.
Ben écoute, peut-être que c'est courant qu'il y ait beaucoup de dopage dans le CrossFit. Bon. Non, mais écoute, moi, si tu veux, je veux bien entraînement court et intense 2 fois, voire 3 fois dans la journée, tu vois, sur 30 minutes, 45 minutes, je pense que c'est possible. Mais... 7 fois dans la journée. Déjà, le gars, il commence son premier training, je crois, à 7h30 ou à 8h30 le matin, et à 22h30, il y était encore la veille, quoi. Le temps que, je sais pas, ou alors il prend des somnifères pour dormir, enfin, de toutes les manières, il y a quelque chose qui est pas normal, quoi, Rudy.
Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, moi, j'y crois pas non plus, mais...
Quand tu t'entraînes beaucoup, à un moment donné, si tu veux, il y a quand même des perturbations hormonales qui produisent un certain nombre de problématiques. Voilà. Et quand il n'y en a pas, c'est soit que tu es un mutant, soit tout simplement voilà, que tu as des moyens de récupérer que le commun des mortels n'a pas, quoi.
Bon, bah, on va pas s'entraîner 7 fois par jour, alors.
Ah non, ça c'est sûr. Moi, je n'entraînerai pas 7 fois par jour. Voilà.
Alors, suite des questions. Donc justement, là on va parler des postures et des types d'entraînement.
Oui.
Donc en fonction des postures, y a-t-il des exercices que tu déconseilles et d'autres que tu conseilles suivant les postures? Donc par exemple, je vais pas noter les noms, mais genre pour les personnes de type 1, est-ce que tu conseilles par exemple de commencer par les fessiers et les ischios et de terminer par les quadriceps? Pareil, je crois en continuité, la même personne qui disait, est-ce que soulever de terre jambes tendues peut aider à remobiliser les fessiers ischios et à retrouver une bonne mobilité de la hanche?
Ouais. Alors, dans l'ordre.
Donc, c'est l'exercice de musculation en fonction des postures. Qu'est-ce que tu déconseilles?
Alors, déjà, ce qui est le plus problématique en fait en musculation, c'est souvent la perte de mobilité articulaire et le recrutement moteur, c'est-à-dire la façon dont le corps va utiliser les différentes chaînes musculaires pour effectuer le mouvement. Donc ça, c'est 2 cas, problème de mobilité articulaire, problème de recrutement moteur, c'est très fréquent en matière de quand on parle de musculation. Et ça explique aussi que certaines personnes aient ou développent un certain type de posture. Donc effectivement, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Par exemple, une posture 2 ne doit pas faire d'abdos en raccourcissement.
C'est-à-dire du crunch.
Voilà, des crunchs, des choses comme ça, parce que déjà, elle a le bassin qui est en rétroversion. C'est pour ça que les gens qui ont une posture 2 ont la capacité de faire 500 crunchs, etc. en te disant à la fin de la série de 500, ouais, ça me brûle à peine, etc. Donc, posture 2, voilà, crunch en raccourcissement à éviter. Elle doit privilégier plutôt des mouvements où elle sent ses pecs bosser et pas ses triceps et ses épaules. Parce que justement, les postures 2, elles ont une tendance à développer plus facilement les deltoïdes, les triceps, au détriment des pectoraux. Dans le cas des postures 1, les gens qui sont hyper lordosés, très cambrés, on doit éviter de renforcer ses lombaires et se focaliser plus sur les fessiers. Généralement parce que les fessiers fonctionnent mal et donc du coup, ben, les lombaires prennent toujours le relais. Voilà, donc ça va créer des problématiques au bout d'un moment au niveau de, ben, encore une fois, de la posture, au niveau du dos. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc pareil, si on voit ça au niveau du haut du corps, une posture 1, elle doit au contraire se focaliser sur les épaules par rapport aux pecs, parce que généralement les postures 1, elles vont facilement prendre des pecs, elles ont des pecs larges, des pecs épais. Moi, je suis posture 1, par exemple, et quand tu regardes les photos sur Superphysique, tu vois très bien que j'ai un gros développement des pecs, mais des petites épaules, en fait. Donc, dans le cadre d'une musculation posturale, enfin, adaptée à sa posture, on va plutôt se focaliser, justement, sur les points faibles qu'on peut voir. Voilà. Dans un cas comme dans l'autre, on doit rechercher surtout à travailler un équilibre, et pas seulement au niveau musculaire, mais surtout au niveau des mouvements. Voilà, c'est-à-dire la manière dont on va faire bouger les charges ou faire bouger son corps pendant le renforcement musculaire.
Donc plutôt penser, comme tout à l'heure on a dit, en fait, plus en fait, dans une sorte de renforcement musculaire, ouais, dans une optique bodybuilding.
Complètement. Ça, c'est ma vision des choses. Après, le fait de travailler en isolation, ça peut avoir sa place en matière de musculation, hein. Mais à mon sens, il faut d'abord apprendre à utiliser son corps de manière globale avant de vouloir l'isoler. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse que les gens font. Ils isolent d'abord et ensuite ils comprennent pas pourquoi le corps qui a été prévu pour fonctionner de manière globale ne fonctionne plus de manière globale. Voilà.
Oui, c'est encore un truc que je lisais là ce matin sur je sais plus quel site. Mm-hmm. Et donc où je disais justement que la base c'est d'abord la mobilité. Qui donne un exemple en plus très intéressant, c'était l'exemple du squat, mm-hmm, où 90% des personnes n'ont pas la mobilité pour le faire correctement,
ouais,
et qui le font malgré tout.
Ouais.
Et donc ça arrive à ce qu'on connaît, pas mal de blessures, dont des hernies discales, des mal de dos récurrents et compagnie.
Ça me permet de répondre rapidement à Victor, je crois, qui avait posé une question.
Oui, sur le squat à une jambe.
Voilà, donc ben moi je lui réponds à Victor qu'avant de vouloir faire du squat à une jambe et de régler les problèmes liés à la stabilité et tout ça du squat à une jambe, ben il faut qu'il sache faire du squat à deux jambes, quoi.
Donc tu penses qu'en fait en travaillant le squat à deux jambes, donc en étant à l'aise en position basse, en fait ça va aller sur le squat à une jambe?
Ben c'est assez logique, Rudy. Si tu as la mobilité nécessaire sur les deux chevilles pour faire du squat complet à deux jambes, forcément, tu auras la mobilité nécessaire pour pouvoir le faire à une jambe. Après, le challenge supplémentaire sera la stabilité, puisqu'on sera sur un appui unipodal, c'est-à-dire sur un seul pied, plutôt que sur les deux pieds avec le squat à deux jambes. Donc globalement, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est d'abord maîtriser le travail au poids de corps à deux jambes, en squat, travailler sa mobilité de cette manière-là, parce que l'autre raison, c'est aussi parce que c'est comme ça qu'on a appris en fait à marcher. Tous les bébés passent par la position, cette position fondamentale de squat complet en fait. Et petit à petit, tu vois le bébé qui pousse dans ses jambes pour se redresser, pour se hisser vers le haut, quoi. Donc le squat, ça s'apprend de la position basse, pas de la position haute.
Donc c'est le conseil que tu lui donnes pour qu'il puisse faire un beau squat à une jambe.
Absolument. Donc il travaille par exemple le squat complet à deux jambes, pas forcément avec des charges, mais il peut mettre un petit peu de charge. Ça permettra de travailler aussi un petit peu la mobilité manquante de se lester. Et puis une fois que voilà, il se sent bien à l'aise dans cette position de squat complet, n'y a pas de douleur au niveau des hanches, il n'y a pas de conflit articulaire au niveau des hanches ou des chevilles. Il n'est pas obligé de compenser en mettant les pieds complètement en canard vers l'extérieur. À ce moment-là, il peut commencer à bosser, notamment avec les exercices que j'avais proposés dans la vidéo sur le squat d'une jambe. D'ailleurs, où je précise qu'il faut d'abord maîtriser le squat à deux jambes.
Je pense que ça répond à ta question. Donc, justement, dans tes livres, on va continuer sur l'entraînement.
Oui.
Donc, on voit beaucoup d'exercices au poids de corps, des exercices avec haltère, etc.
Oui.
Là, en fait, c'était Hades Jack, je crois, qui te pose pas mal de questions. Et donc, en gros, sa question, c'était comment adapter le CTS à la pratique de la musculation en salle. Donc, en gros, alors, ce que je comprends, c'est qu'il veut utiliser les barres, les haltères, mais pas trop le poids de corps.
Ouais, c'est ce que j'avais aussi compris. Ben alors, la réponse, elle est assez simple, hein. C'est des choses que tu retrouves déjà depuis pas mal de temps, mais qui sont oubliées par les gens et que je n'ai pas inventé du tout. Donc la première des choses, on l'a dite, c'est toujours s'entraîner en termes de mouvement, c'est-à-dire que si je pousse, je dois tirer dans la même direction et selon un volume similaire. Donc par exemple, si je fais du développé couché, je dois faire du rowing et pas du tirage vertical. Si je fais du tirage vertical, par exemple à la poulie, je dois faire du développé militaire avec haltère, parce que le vecteur de force est opposé. D'un côté, je tire la charge vers le bas lorsque je fais du tirage vertical, et d'un autre côté, je pousse la charge vers le haut lorsque je fais du développé militaire haltère. Si je fais par exemple du squat avant, ben, je vais devoir faire du glutam raise. Tu sais, c'est l'exercice où on est les talons accrochés à la chaise romaine et on remonte pour solliciter
les ischios,
les fessiers et les muscles lombaires. Donc, le plus important en fait dans cette question, c'est qu'il faut travailler le corps de manière équilibrée, mais surtout de comprendre en fait cette logique de mouvement. Voilà. Quand je pousse vers l'avant, je tire vers l'arrière. Quand je pousse vers la verticale, je tire vers le bas. Et ainsi de suite. C'est quand même, je pense, relativement facile en fait à saisir, surtout pour faire ça en musculation classique. Ce qui me permet aussi, si tu me le permets, Rudy, puisque je crois que ça avait été posé par une autre personne qui me demandait... pourquoi musculation haute densité avait été arrêtée et qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné dans ce livre. Eh bien, dans musculation haute densité, en fait, j'utilisais les deux concepts, c'est-à-dire les vecteurs de force verticaux, ceux qu'on connaît par la musculation classique, hein, j'ai un poids sur les épaules où je m'allonge sur un banc et je soulève un poids de manière verticale. J'allais combiner ça avec des vecteurs plus horizontaux avec l'utilisation d'élastiques. Et donc du coup, ça crée un système de développement autour du mouvement qui était extrêmement fonctionnel puisque c'est exactement ce qu'on retrouve en fait dans les sports, notamment dans le travail qu'on pratique en préparation physique. À la fois, si tu veux, lutter contre la gravité et à la fois accélérer le corps dans de multiples directions. Et donc ça, c'est la combinaison en fait de vecteurs de force verticaux et de vecteurs de force horizontaux. Pour ceux qui font un peu de physique, que je rappelle ça. Ça va, t'as déjà suivi là ?
Oui, j'ai suivi. Donc voilà. Justement, sur Adesia qui demandait comment planifier tes méthodes, genre le tempo contraste.
Ouais.
Donc il voulait aussi commencer à planifier le Tabata, donc ça me paraît un peu compliqué de répondre à ça rapidement en fait.
Ouais, éventuellement on pourra en reparler, qui repose la question dans un prochain podcast, parce que ça il est déjà long là. Je veux bien y répondre dans un autre sur ces questions.
Donc je garde cette petite question pour plus tard alors.
Voilà, exactement. Après, vas-y Rudy, peut-être que t'as d'autres questions, j'en avais une ou deux que j'avais notées aussi auxquelles je voulais répondre.
Ben vas-y, dis-moi celles que t'as notées qui te plaisent alors.
Alors il y avait Body Gilles qui me demandait aussi si la manière dont on dort influence en fait la, notre posture et les problématiques douloureuses. Et effectivement la réponse est oui. Donc il y a la manière dont on dort va avoir une influence principalement au niveau du cou, des épaules et du dos. Donc la première chose à faire, c'est si on peut choisir un bon matelas, choisir un bon coussin ergonomique, c'est-à-dire qui peut vraiment s'adapter en fait à la forme des cervicales, de manière à ne pas trop surélever la tête, ne pas trop créer en fait de mouvement vers l'avant au niveau de la tête, parce qu'on
un peu comme les oreillers qu'on voit
absolument
avec ouais. les... juste pour poser exactement. Le cou, tu poses la tête.
C'est ça, c'est de très bonnes choses, c'est des coussins ergonomiques. Et dans les positions vraiment à éviter, c'est la position sur le ventre, en fait, qui est la pire pour tous, parce qu'elle met vraiment le corps dans des positions de rotation. Et très généralement, c'est dans ce genre de position-là qu'on se réveille le matin avec un torticolis ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'était là une...
En gros, faut dormir en restant aligné.
Ouais, sur le dos ou éventuellement sur le côté, si tu as la possibilité d'avoir un bon coussin, si t'as pas de problème au niveau des épaules, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la muscu qui ont des problèmes d'épaule, donc en dormant sur le côté, on risque encore une fois d'entraîner des petits conflits articulaires pendant la nuit et se réveiller avec des douleurs qu'on n'avait pas la veille. Donc faire attention à la position latérale, utiliser par exemple un coussin ou caler la couette entre ses genoux, de manière justement à éviter un certain nombre de problématiques aussi au niveau du bassin et au niveau des lombaires. Voilà. Donc finalement, la position la plus favorable, c'est sur le dos. La moins problématique de toutes celles qu'on peut avoir, c'est sur le côté. Et celle absolument à éviter, c'est celle sur le ventre. Voilà.
Bon ben, on va peut-être mieux dormir alors.
Je sais pas. Sinon, un bon pain dans la gueule, ça aide aussi à bien dormir.
Donc, quelle est l'autre question que tu avais notée avant que je te pose les autres, dis-moi.
Il me demandait aussi, Body Gilles, si j'avais encore des idées en termes d'innovation, parce qu'il me considérait un petit peu en avance en termes de préparation physique.
Ah, c'est vrai qu'en France, t'es plutôt en avance, hein.
Peut-être que je suis, ouais, peut-être un petit peu en avance, mais voilà, écoute, je...
Bon, c'est mon avis en tout cas.
Ben, c'est gentil, Rudy. Mais voilà, alors pour lui répondre à Body Gilles, je crois pas qu'il y ait de grosses innovations maintenant en matière de prépa, d'entraînement et de prépa physique, car je considère qu'avec Internet et la mondialisation du business du fitness et de la prépa physique, on s'aperçoit que tout le monde converge vers tout le monde. C'est-à-dire que de plus en plus, on a une approche qui est beaucoup moins morcelée du corps, on a une approche qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser plus facilement dans différents secteurs de nos vies ou dans différentes disciplines. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de grosses innovations, parce que de toutes les manières, la physiologie et le corps, ça reste le corps, quoi, tu vois. Donc, on peut pas réinventer en permanence les choses. Je pense que les grosses innovations, elles viendront en termes de planification, c'est-à-dire de la manière de bien planifier l'entraînement, la manière de bien planifier en fait les plages de récupération, la manière de bien entrevoir en fait l'impact de tels entraînements sur le corps et justement d'appliquer un certain nombre de méthodologies de récupération afin de favoriser la progression. Mais à mon sens, un bon programme ou un bon système d'entraînement, il doit premièrement aider les sportifs à aller mieux, pas à se détruire, parce que contrairement à ce que certains gourous, etc. peuvent dire sur Internet, une blessure c'est jamais anodine, ça laisse toujours des traces au niveau du corps, ça force toujours le corps à compenser, et tu rencontreras toujours des vieilles gloires d'un sport qui te répondront à si j'avais su à l'époque, en parlant justement de méthodes d'entraînement ou des conneries qu'ils ont pu faire à l'entraînement, quoi. Tout ça pour dire que ben voilà, un bon système, c'est quelque chose qui te fait progresser, mais qui te détruit pas, quoi. En tout cas, c'est aujourd'hui ce que je pense de la préparation physique, et c'est ce vers quoi je tends pour mon propre système, le CTS. Et le deuxième point fondamental pour moi d'un bon programme, c'est justement de faire progresser selon une logique de système, c'est-à-dire une logique qui est reproductible par un grand nombre de personnes. Voilà. Même si l'entraînement, c'est quelque chose qui doit être individualisé, tu te rends compte quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui sont similaires pour tout le monde. Et c'est ça finalement, pour moi, les grandes innovations dans le futur, ça sera les gens qui arriveront à bien planifier, à bien codifier leur propre système d'entraînement ou de préparation physique. Voilà.
Donc maintenant, on va revenir sur la question de Divi, donc qui justement lui s'entraîne le matin. Donc en fait, il se lève à 6h du matin, et donc à 7h30, il doit avoir filé au boulot, et il doit avoir casé son petit déj, son entraînement, et son repas après entraînement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'entraîne à jeun? Ou est-ce qu'il prend son petit déj et qu'il attend un peu pour s'entraîner?
Alors, c'est déjà ce qui est compliqué, c'est que faut toujours attendre 15 à 20 minutes minimum après être sorti du lit pour s'entraîner, pour éviter de prendre des risques au niveau des disques intervertébraux qui ont gonflé pendant la nuit. Donc ça, faut vraiment faire attention. Donc moi, ce que je ferais à sa place, je prendrais déjà un shaker si tu veux, avec par exemple des protes et des glucides dedans, tu vois, bah, ça peut être de la prote avec une banane mixée, ou alors de la waxi ou je sais pas quoi.
Donc quelque chose qui passe vite, quoi.
Exactement, qui soit relativement digeste, qui lui pose pas de problème. Et ensuite, bah, je ferai quelque chose d'assez simple, faire un peu de mobilité, un peu de gainage et un échauffement fonctionnel pendant 20 minutes. Sans temps de repos pour pouvoir vraiment être bien chaud, bien préparé. Après, je choisirai deux circuits globaux avec une orientation pliométrique pour travailler un petit peu l'agilité. Alors, ça peut être par exemple traction plio avec squat jump, par exemple. Et ensuite, je rajouterai deux circuits globaux de total band training, puisque je crois que Dibi, il a ce genre de projet à moi. Voilà, donc deux circuits globaux avec des élastiques en faisant du tempo contraste par exemple, ce qui lui laisse assez de temps pour faire quelques étirements en fin de séance et le soir éventuellement caser des automassages lorsqu'il rentre du boulot. Voilà.
Bon ben, j'espère que Dibi va pouvoir mieux s'entraîner.
Ben, j'espère aussi pour lui, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué les emplois du temps des uns et des autres. Et c'est là que tu t'aperçois, voilà, que à moins d'avoir gagné au loto ou d'être rentier, l'entraînement aujourd'hui, ça devient compliqué, quoi. Voilà.
Ah, c'est secondaire par rapport à elle, donc on fait du mieux qu'on peut.
Absolument.
Parce que souvent, tu sais, on a des questions aussi sur le site ou sur le forum du style, est-ce que c'est mieux de s'entraîner l'après-midi ou le matin?
Ouais.
Mais déjà, c'est déjà bien de pouvoir s'entraîner. Après, tu vois quand tu peux t'entraîner.
Ouais. Ben c'est voilà, c'est une très très bonne réflexion, Rudy. Je réponds exactement de la même chose, de la même manière, très très régulièrement. Je dis aux gens, la vraie question c'est quand avez-vous le temps de vous entraîner et combien de temps. Déjà, ça c'est la première vraie question. Et si jamais ben, vous répondez, j'ai 30 ou 40 minutes, 4 fois, 5 fois par semaine ou une heure, ben à partir de là on peut commencer à discuter. Mais voilà, sinon, sauf peut-être que tous les gens de Super Physique sont rentiers, c'est pour ça qu'ils te posent ce genre
ouais.
de questions. Et Rudy, avant qu'on finisse, il y avait aussi une question, je crois, de Marco, qui avait demandé si je comptais ouvrir un centre CTS.
Alors, y a-t-il un centre CTS?
Non, pour le moment, il n'y aura pas de centre CTS, parce que je veux garder ma capacité à rester mobile, à bouger, à pouvoir enseigner un petit peu partout. Voilà, pour l'instant, je préfère former des gens. Donc, j'anime beaucoup de formations, je fais beaucoup de stages pour des profs, pour des brevets d'État, pour des écoles de formation, pour des kinés, etc., pour des sportifs soucieux d'apprendre à progresser. Donc il y aura d'autres formations qui seront organisées dans l'année. Il y en a déjà quelques-unes sur Paris, je vais en monter d'autres avec des thématiques différentes. Donc c'est des formations qui auront lieu aussi sur Paris et sur Montpellier, notamment à la salle CrossFit Montpellier, pour leur faire un petit peu de pub parce qu'ils viennent d'ouvrir et pour vous montrer que voilà, que je suis pas du tout sectaire et contre CrossFit, contrairement à ce que certaines personnes disent.
Moi, c'est ce que j'allais dire.
Je suis contre la connerie humaine. Voilà, ce qui me permet, si tu me permets, Rudy, de pouvoir dire que justement, il y a un buzz en ce moment sur les problèmes que Delavier a avec la Fée pour avoir fait des vidéos pour expliquant les problématiques douloureuses sur les dips, par exemple. Voilà, et que j'apporte directement mon soutien à Frédéric sur le sujet. Parce que voilà, les vidéos qu'il a créées, elles sont faites pour aider les gens, pour répondre justement à des jeunes qui ont des pathologies. Moi, j'en reçois beaucoup sur mon forum, et à mon sens, les vidéos, elles avaient aucunement un ton injurieux ou outrancier. Donc, je vois pas très bien pourquoi Olivier Lafay il fait ça, malheureusement. Mais bon. Donc voilà, moi, je suis encore une fois contre la connerie humaine. Et quand il y a des choses intelligentes et intéressantes, comme Fred Delavier a produit ces derniers temps, eh ben je le dis et je dis bravo. Voilà.
Bon, ben, je pense que ce sera le mot de la fin, Christophe.
Ouais.
Bon, ben.
À bientôt, hein, pour tous les auditeurs. Et puis, on continue l'aventure, hein. Les mails sur le forum Superphysique. Sur mon forum si vous avez besoin, et puis on avance.
Voilà, bon bah merci à toi Christophe donc pour ce podcast.
Merci beaucoup.
Donc on se retrouve sur Superphysique et donc sur ton site.
Absolument.
D'habitude.
Longue vie à Superphysique et à tous les gens qui s'entraînent intelligemment, voilà, et qui veulent avancer.
Salut Christophe.
Salut, bye bye.